Philippe Couillard a présidé l'automne dernier le sommet sur l'alimentation. Et pour marquer davantage le fait que la nouvelle politique bioalimentaire du Québec n'est pas qu'une politique sectorielle, mais bien une politique gouvernementale, il a présidé à la divulgation du document à la ferme Quinn à l'île Perrot.
On va encore plus manger des produits de chez nous. On va encore plus savoir d'où ils viennent. On va mieux connaître nos producteurs. Puis nos enfants vont avoir contact avec nos produits québécois dès la petite enfance. Si j'avais à résumer, là, j'ai pas tout dit, mais c'est une bonne partie de ce qu'on veut créer. C'est la première fois que le Québec se dote d'une politique bioalimentaire. Alors, on a mis les consommateurs, les familles, avec les producteurs, avec les transformateurs, les exportateurs, ensemble autour de la table. Je pense que ça va bénéficier aux gens, aux Québécois, aux Québécoises, mais dans leur qualité de vie. Manger mieux, ça fait vivre mieux aussi. Et je pense que c'est le grand message aujourd'hui.
Une politique axée sur les consommateurs, oui, mais qui implique tous les maillons de l'agroalimentaire. Le ministre Laurent Lessard.
La confiance des consommateurs, ça se bâtit sur la confiance des partenaires.
D'ailleurs, tout au long du processus de préparation de la politique bioalimentaire, tout le monde aura été mis à contribution. De nouveau, Laurent Lessard.
On avait dit ensemble, on va faire le parcours suivant. On va se doter d'une politique bioalimentaire pour la première fois au Québec, de façon gouvernementale. On va se donner des cibles, parce qu'il faut se mesurer. Le premier ministre a dit tantôt, quand c'est important, il faut donc être capable de le mesurer. On va adresser la question de l'offre alimentaire, du développement économique, du développement durable, évidemment, du côté des territoires. L'appel aux territoires, l'appel à la différenciation des territoires, qui soient autant des produits de la terre que des produits de la mer, puisque le Québec est grand. Donc, dans ce Québec si différencié, on est capable quand même de réussir à faire plus, à faire mieux, en respectant le choix des Québécois, d'avoir des produits sains, de grande qualité, parce qu'on est préoccupé par la valeur nutritive, moins de sel, moins de sucre. On est-tu capable d'agir correctement pour la génération qu'on est? Donc, on est des consommateurs, puis ceux qui s'en viennent. Ceux qui s'en viennent aussi, il faut donc continuer de faire de l'éducation dans la société, de loisirs, de travail, en fait, dans nos institutions, si on a fréquenté les établissements scolaires. On s'était dit, ça nous prend la politique, mais ça nous prend aussi, donc, des cibles. On est installé des cibles, tantôt, sur les exportations, sur la croissance, du contenu québécois, parce qu'on est très friand de ça. Mais on dit, Laurent, ça va pas passer si t'as pas un cadre financier. Donc, la perspective, donc, la stabilité dans l'investissement passe par un cadre financier. Et le ministre des Finances a été sensible. Un cadre prévisible, parce qu'on dit, la politique agricole canadienne, c'est un cadre sur 5 ans. Cadre stratégique sur 5 ans, on combat, bien, en fait, on envoie des produits aux États-Unis qui ont un quart d'eux autres, donc une politique sur 10 ans. La politique agricole commune européenne, c'est sur 6 ans. Donc, ça nous prenait un cadre de prévisibilité. Donc, dans le dernier budget, le seul chiffre devait retenir, c'est 349 millions additionnels aux 195 de l'année d'avant. Et à ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on prend des organismes, des sociétés modernes, il faut moderniser nos infrastructures. On a ajouté pour la première fois 80 millions de dollars pour les immobilisations. C'est vrai qu'on va enseigner la modernité sur les pratiques donc de bien-être animal, mais il faut aussi que nos installations le reflètent bien. Les étudiants d'aujourd'hui doivent travailler avec des équipements qui présentent la stabilisation libre, qui présentent dans l'industrie porcine ce que c'est de travailler à air ouvert, etc., avec des cafétérias. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le bien-être animal est rendu le passeport donc d'accès à l'assiette des Québécois, aux tablettes des détaillants ou des grands distributeurs qui commandent le fait de respecter la demande, soit nationale ou internationale. Donc, le cadre financier, la politique, le cadre financier, je déposerai dans les prochaines semaines une loi. Donc, il revisera les lois agricoles, qui va aussi dans le sens du rapport Pronovost de moderniser nos lois. Mais le plus important, puis le plus fondamental, puis le plus fondateur, c'est l'affaire la plus difficile à faire, mais c'est la seule affaire à faire, c'est d'avoir un dialogue annuel permanent avec l'ensemble de l'industrie, avec l'ensemble des consommateurs, pour faire vivre la politique. Aujourd'hui, je vous donne une responsabilité auquel le gouvernement a dit présent, donc qui s'est engagé au nom de mes collègues et du premier ministre, d'avoir nos rencontres annuelles pour voir si dans l'ensemble des travaux qu'on a lancés, des investissements qu'on s'est promis de faire, si on atteignait nos cibles. Il y aura donc, sous la gouverne de l'ouverture du premier ministre, qui ouvrira ses premières assises-là, une coprésidence donc assumée entre le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé, donc pour tout le volet de santé publique. Et lors de ces assises-là, nous aurons l'occasion de nous prononcer sur l'avancement des travaux du plan stratégique sur la santé des aliments, sur le développement économique, sur la responsabilité dans la production et la gestion du territoire, des sols, de la qualité de l'eau, etc. Donc, et comment le ministère de l'Agriculture a pu aussi déployer. Il y aura donc un secrétariat donc intergouvernemental pour s'assurer que tout le monde travaille. Aujourd'hui, le premier ministre m'a demandé de mettre la table. Monsieur le premier ministre, la table est mise.
La politique fait une bonne et logique place à l'entreprise familiale.
La qualité, la fraîcheur, le savoir-faire québécois, la façon de faire. Nous, les fermes au Québec, ils ont un nom de famille. Puis ils ont souvent plusieurs générations. Je crois dans une société de propriétaires. Je veux vivre d'une société de propriétaires dans toutes les régions du Québec, et c'est le modèle qu'on va valoriser.
Il y a au Québec 9 400 fermes dont les recettes annuelles ne dépassent pas les 50 000 $. La diversification, la variété et le développement d'un secteur alimentaire de proximité doivent venir pour beaucoup de ces entreprises.
Mais c'est à cette dimension-là qu'ils veulent vivre l'agriculture. Et on doit les accompagner dans leurs choix. Et donc, on a donné des sommes additionnelles, puis on va donner des allègements qu'on a déjà faits à la financière agricole pour que ces petites fermes-là puissent réussir là où ils sont installés, là où ils ont décidé de vivre leur expérience agricole. C'est sans compter aussi sur les laboratoires territoriaux. On a inventé des routes gourmandes, des paniers en ligne, des paniers bio, des visites à la ferme, des fêtes champêtres, etc. Mais à une échelle d'un territoire, on va bâtir des laboratoires pour faire en sorte qu'on va aller plus loin dans l'expérimentation, donc en produisant, en respectant la valeur, la qualité des sols, mais nécessairement de donner une expertise plus ample et donc plus diversifiée dans l'offre de produits. Il y a quelques années, du chanvre industriel, on n'en faisait pas. La camerise, on n'en faisait pas. Des petits fruits, on en faisait beaucoup moins de variétés. Mais avec des expérimentations passées, on était capable d'introduire du panier érigé pour aider la gestion des sols, éviter l'érosion, amener une autre culture qui a, en valorisant les produits. On produit du houblon. Donc, c'est des nouvelles générations. Et l'industrie brassicole s'est développée au Québec. Aujourd'hui, on est capable de malter l'orge. Et l'industrie brassicole a, une croissance phénoménale maintenant dans les épiceries. Même les grands les achètent parfois parce que le produit donc, a atteint les tablettes. Donc, les petites fermes, les plans de développement de la zone agricole, j'y tiens. Parfois, il faut revenir souvent pour être capable d'aller plus loin. On a inventé ça dans le temps en disant comment développer, comment protéger la terre agricole contre ces agressions, en fait, non désirées ou non sollicitées. Bien, la meilleure façon de développer la terre, de protéger la terre agricole, c'est de la développer avec ses potentiels. Donc, on a établi des plans de développement de la zone et des activités agricoles. Faire en sorte que quand tu analyses ton territoire, tu vois les meilleurs potentiels, tu es capable de l'offrir à quelqu'un. Il peut louer la terre, il peut commencer une exploitation. Puis on doit aussi planter des choses qui vont pousser en respectant les sols ou en améliorant la qualité des sols avec le chaulage et le drainage. Premièrement, la professionnalisation des pratiques agricoles, aussi de la transformation qui essaie de transposer aussi ces meilleures pratiques-là, parce que c'est à travers la qualité. L'expérience de manger doit demeurer heureuse, sécuritaire. Les Québécois ont acquis cette qualité-là. Quand on va à l'épicerie, on sait toujours que ça va nous rendre heureux de manger et que l'innocuité, etc., il y a quelqu'un qui s'en occupe. Donc, toutes les normes de précision.
La politique bioalimentaire du Québec également s'appuie et stimule tout à la fois les plus grandes productions. On vise à ce que les consommateurs ajoutent chaque année 10 milliards de dollars dans des achats alimentaires québécois. Aussi, l'objectif d'exportation est ambitieux. Faire passer celle-ci annuellement de 8 à 14 milliards de dollars. Laurent Lessard met tout d'abord le premier ministre Philippe Couillard.
Bien, je vais vous donner juste un indice ou deux. La demande est énorme. C'est pas pour rien que la valeur de nos terres agricoles augmente beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui pose d'autres enjeux par la suite. Mais la valeur des terres augmente parce que la valeur économique du produit des terres est majeure à cause de la demande d'exportation. Je donne toujours le même chiffre. La classe moyenne en Chine, 300 millions de personnes. Ça, c'est des familles, des gens qui ont des maisons, qui veulent les mêmes choses que nous autres. On leur exporte actuellement beaucoup, beaucoup de porc. On le voit que les chiffres sont en augmentation constante depuis des années. Mais il y a plein d'autres produits plus transformés qu'on peut envoyer là-bas également. Le libre-échange avec l'Europe, c'est une occasion extraordinaire qu'on va saisir. Alors moi, je pense que c'est très réaliste. La population de la planète, elle augmente tout le temps. Et on est en mesure de combler une partie, pas tous bien sûr, mais une partie des besoins de cette population.
Concernant la part des produits québécois qui sont achetés ici au Québec, on dit qu'actuellement c'est 53 % des aliments que les Québécois achètent qui proviennent du Québec. Quel est l'objectif d'ici 2025?
Une des cibles visées, c'est d'augmenter de 10 milliards la présence des produits québécois dans la demande intérieure.
Et concrètement, comment on fait ça?
Savez-vous quoi? Écoutez le monde, c'est ça qu'ils veulent. La meilleure façon de réussir une entreprise, quand tu as des clients, c'est de donner ce que le client demande. Et le client, il veut du produit québécois, il veut du produit régional, puis il veut le savoir sur l'étiquette. Ce ne sera pas dur, ça. L'important, c'est d'amener le niveau de production puis les chaînes d'approvisionnement à la hauteur où on doit être pour répondre aux besoins. La demande, elle est là. Alors, quand une entreprise a une demande croissante devant lui ou devant elle, c'est juste une bonne nouvelle. Et moi, il n'y a pas une région où je vais où on ne me dit pas ça. Je veux manger de chez nous, je veux savoir d'où ça vient, je veux savoir qui l'a fait.
Concrètement, il faut augmenter les superficies cultivées.
Oui. Oui. Alors, les superficies agricoles, Laurent vient d'en parler. Il a dit quelque chose qui est passé rapidement, je voudrais le répéter, là. On a augmenté de façon très importante notre production agricole. On exporte déjà dans 170 pays, est-ce que c'est le bon chiffre, dans une ambiance de production agricole qui est littéralement sous moratoire depuis des années, où les terres cultivées n'ont pas beaucoup augmenté, pour plusieurs raisons. Alors, il faut lever le verrou de façon correcte et respectueuse de l'environnement puis dans une perspective de développement durable. Mais je donnais l'exemple dans mon allocution du rééquilibrage à faire entre les milieux municipaux et les milieux agricoles. Avec raison et générosité, les agriculteurs me disent, nous, on est prêts à dialoguer avec le milieu municipal, mais vous devez nous permettre d'utiliser les terres qu'on a. Par exemple, de déboiser des terres qui sont actuellement non disponibles et transformer en terres de culture ou de transformer des terres en friches en terres productives. Et c'est pour ça que ce qu'a fait Isabelle récemment sur la question des unités animales, ceux qui ne sont pas du domaine, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est majeur. C'est la première fois que, d'une façon concrète, on lève une partie du moratoire. Et tout ça lié à la charge de phosphore, il y a des considérations environnementales qui sont excessivement importantes, mais elle est là, la solution. Alors, on ne peut pas penser à atteindre ces cibles-là en restant dans une ambiance de non-développement ou de moratoire de la production agricole.
Ici Lionel Levac. Dans un prochain blog, je ferai état de la contribution d'au moins 3 autres ministères du gouvernement du Québec à la mise en œuvre de la politique bioalimentaire. Au revoir.